Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Olivier Bétard, assistée de Karen Dehé, avec à la technique aujourd'hui Guillaume Roux et Julien Chabassu.
Au sommaire cette semaine, état d'âme chez les DRH et la Turquie sous tension à Paris comme à Ankara.
Mon banquier connaît les Kurdes. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans la main de quatre barbares des pays.
Vous savez, quand, avant de partir, de quitter PSA, j'ai fait deux plans, deux fois 6500 personnes en deux ans. Et je l'ai fait, pas de gaieté de cœur, mais je l'ai fait en mettant tous les moyens.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les bruits?
Et oui, chers auditeurs, un plan social, ça ne se fait pas de gaieté de cœur. Mais alors que la détresse ou la colère des salariés licenciés occupe les unes des JT, qui se soucie des états d'âme de ceux qui tiennent le couperet, de la détresse de ceux qui font le sale boulot et qui risquent désormais d'y perdre la chemise? C'est donc pour regarder le problème par l'autre bout de la lorgnette que Guy Vanctil s'est rendu à Suresnes pour assister aux troisième rencontres du dialogue social organisé par l'Association nationale des DRH. Car oui, les directeurs des ressources humaines ont aussi un petit cœur qui bat et qui souffre au fond de la poitrine. Et ça, on n'en parle pas assez. Mais avant de vous sensibiliser au blues des DRH, nous allons nous intéresser à un autre peuple qui souffre. Un peuple en lutte pour la reconnaissance de son identité, voire de son indépendance, et dont le sort est au cœur de l'actualité internationale. Le 1er novembre auront lieu en Turquie les élections législatives. Alors pour comprendre les enjeux de ces élections et le poids que la question kurde y occupe, Antoine Çağ, lui, s'est rendu dans le 10e arrondissement de Paris à la rencontre des Turcs de la petite Istanbul. Comme un bruit qui court, avec les DRH en souffrance et le peuple kurde en lutte, c'est jusqu'à 17h et c'est sur France Inter.
Antoine Çağ,
Charlotte Perry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Cela devait être une marche pour la paix. Les participants commençaient à peine à se rassembler. Une explosion, puis une seconde à quelques pas de la gare d'Ankara. La place est soufflée. Au sol, des dizaines de corps allongés. Ceux qui sont indemnes prodiguent les premiers soins aux blessés. Les ambulances se succèdent. Ces drapeaux qui recouvrent les victimes et que brandissaient les manifestants sont ceux du Parti démocratique des peuples, aux racines kurdes, fermement opposés au président Erdogan.
Plus de 600 000 Turcs et Franco-Turcs vivent en France, selon les chiffres 2013 du consulat de Turquie, et la moitié sont en région parisienne. Après le terrible attentat meurtrier d'Ankara, samedi dernier, et à deux semaines des prochaines élections législatives, la question kurde est au cœur des tensions qui déchirent la Turquie. Et le jeune parti progressiste et pro-kurde HDP, Parti démocratique des peuples, cible du pouvoir et des kamikazes de Daesh, suscite l'espoir d'un changement démocratique. C'est au Centre culturel kurde, ouvert en 2001, au 16 rue d'Anguin à Paris, que l'on va commencer notre balade dans la petite Istanbul.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Ici, qu'est-ce qui se passe alors dans ce centre culturel? Bon, il y a toute la presse, il y a une petite cafétéria, il y a des livres, il y a des disques, il y a des chaînes avec le satellite, c'est ça? Donc, ça, c'est les chaînes kurdes ou les chaînes turques?
Les chaînes kurdes, les deux.
Donc, il y a des photos au mur aussi, hein. C'est des photos des fameuses combattantes kurdes, c'est ça?
Combattantes, plus...
À Kobané.
Vous avez certaines photos qui parlent de village, leur façon de vivre, en fait, au village. Et puis, il y a toutes les personnes qui combattent, en fait, à Kobané, en fait. Mon prénom, c'est Mamik. C'est un prénom de kurde. Je suis kurde. Et je me suis échappé en Turquie l'année 2000, parce que j'étais responsable de jeunesse pour informer, pour faire manifestation en Turquie. Parce qu'en fait, en Turquie, le problème, si vous êtes participé dans un parti de gauche ou... Parti socialiste, ça suffit pour mettre en taule. Vous êtes déjà coupable. Et donc moi, j'ai vu ce problème. Et j'ai vu deux solutions. Soit il faut que je vais en montagne avec guérilla, soit m'installer dans un autre pays. J'ai pris ce chemin ici. Et en début, j'étais réfugié politique. Et comme je suis quelqu'un qui aime toutes les cultures, j'ai participé tout ce qui se passe, en fait. Voilà.
Et là, on voit qu'il y a des drapeaux du HDP. Oui. Vous êtes proche du HDP aujourd'hui ?
Oui, oui, j'ai participé et puis j'ai voté aussi pour HDP. Ils ont attaqué la samedi dernière pour détruire, en fait. C'est ce qu'ils font toujours depuis des années. Ils font bien ça, en fait. Trouver, attaquer, tuer. Ça, ils font bien.
Et justement, aujourd'hui, donc, tous les mercredis, il y a une manifestation en hommage aux trois militants kurdes, aux trois militantes, c'était trois femmes qui ont été assassinées à Paris, le 9 janvier 2013. Oui.
À Paris, trois femmes kurdes ont été retrouvées mortes cette nuit, chacune une balle dans la tête, dans les locaux du centre d'information du Kurdistan. Elles ont vraisemblablement été assassinées. Parmi les victimes figure l'une des fondatrices du PKK. Ces meurtres interviennent alors que la Turquie vient d'entamer des négociations de paix avec le fondateur du PKK. L'hypothèse d'un crime destiné à faire capoter les pourparlers est avancée par le gouvernement turc et des représentants kurdes.
Et donc tout le monde porte en signe de deuil un foulard noir, hein, c'est ça, sur le front.
Voilà. Ils ont trouvé l'assassin, mais le problème, donc nous on sait que c'est le secret turc, mais ça n'a pas été.
C'est
le service.
Le service secret turc.
Ça s'appelle le mythe.
Et vous venez tous les mercredis marcher ?
Oui, tous les mercredis à 14h.
Où vous êtes né en France ?
En France, oui. Je suis né ici, français kurde, kurde française.
Et vous avez de l'espoir quand même pour la Turquie. Il y a eu ce moment d'espoir hein, au mois de juin, aux élections, avec la percée du parti HDP. Et comment vous avez vécu, vous, cette période ?
On s'y attendait. On savait qu'on allait passer le barrage parce qu'on voyait des meetings. On était vraiment nombreux en Turquie, avant les élections, en fait.
Quand vous dites le barrage, c'est quoi ? C'est les 10% pour rentrer au Parlement ?
Pour rentrer au Parlement. On a eu 80 députés. C'était une joie. Mais le problème... On a passé le barrage, mais ensuite de ça, il y a eu plusieurs attentats. Il y a eu Suruç, il y a eu Diyarbakır.
L'explosion s'est produite vers midi dans ce jardin d'un centre culturel de Suruç. 300 membres d'associations turques proches de la gauche s'étaient rassemblés ici. Ils voulaient traverser la frontière avec la Syrie pour participer à la reconstruction de Kobané, située à une dizaine de kilomètres. C'est ce bastion kurde que l'État islamique avait attaqué en septembre dernier. Des milliers de Kurdes avaient fui les combats pour se réfugier à Suruç. Les djihadistes ont fini par battre en retraite en janvier après 4 mois de violents combats.
Et maintenant, samedi, il y a eu Ankara.
Et vous êtes confiant pour les prochaines élections de dimanche 1er novembre ?
Ah oui, oui, notre objectif c'est 20%.
Et vous votez ici, à Paris ?
Oui, au consulat turc. Les démarches, c'est facile, mais sur l'ordinateur, ils nous suppriment, en fait. Parce que moi, je me suis enregistré pour les élections précédentes et on m'a supprimé pour les élections de maintenant. Et du coup, j'ai dû refaire un enregistrement.
Ça y est, vous êtes inscrit pour voter dans 15 jours.
Je suis inscrit, voilà. Non, là, c'est en ce moment où on vote, en ce moment.
D'accord, donc ça, c'est le formulaire de vote par correspondance pour les citoyens turcs qui vivent à l'étranger.
Voilà, exactement, c'est ça.
Je pense qu'on va
commencer. Ouais, on va aller faire la marche. Ouais. Je vous suis, merci. C'est à Paris que nous avons été assassinés. Fidan Dogan, Sakin Kansiz et Leyla Saylemez. Il y a le petit cortège qui se met en place devant l'Académie Agriculture du Kurdistan.
Nous voulons la justice.
Vérité et justice.
Nous voulons la justice.
Nous voulons la justice.
Nous sommes tous sakinés.
Nous sommes tous sakinés. Nous sommes tous sakinés.
Nous sommes tous réjbis.
Nous sommes tous réjbis. Nous sommes tous réjbis.
Nous sommes tous Leïla.
Étaient ces trois femmes qui ont été assassinées ici ?
Assassinées, c'est des militants des Kurdes. Ils sont tués pour rien du tout. Nous voulons la vérité, nous voulons la justice en France.
Vous êtes kurde vous-même?
Bien sûr. Le monde entier connaît les Kurdes. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans la main de quatre barbares des pays. C'est ça le problème. Nous, on est des 50 millions Kurdes. On souffre.
Annem, annem, kurtar beni, düşmüşüm ben ateşlere. Teyze, amca, duy sesimi, düşmüşüm ben karanlıklara. Daha benim yaşım ne, daha benim başım ne? 13'ünde, 14'ünde, 15'inde tutukluyum içeride. 13'ünde, 14'ünde, 15'inde tutukluyum içeride. Tutukluyum içeride.
Là, qu'est-ce qui se passe? On est rue Lafayette, c'est ça?
Ouais. Là, on fait une minute de silence pour tous les martyrs du Kurdistan. Erdogan ne changera pas de politique, Erdogan ne changera pas de vision politique. Sa seule plus-value pour la société au Moyen-Orient, c'est la guerre et la misère. Si on parlait vraiment d'alternatives, et c'est ce qui nous importe aujourd'hui, les réelles alternatives qu'on a en Turquie. Le HDP aujourd'hui, le HDP, son acronyme veut dire le Parti démocratique des peuples. Je précise bien des peuples. Pourquoi ? Parce qu'on n'envisage pas la solution d'un pays à travers une ethnie. On envisage la solution à travers toutes les ethnies. On veut bien vivre dans un pays qui accepte justement toutes ces identités, à la fois culturelles et politiques, mais pas qu'il ne les tolère, comme fait un peu ce système de l'État de Turquie avec son système centralisé et turquicide. Comment on peut faire dans un pays qui réunit 77 ethnies au bas mot, les dénigrer à ce point et vouloir absolument les turquiser, absolument leur enlever toute identité culturelle? On veut bien être peuple de Turquie, on veut bien être citoyen de Turquie, mais je précise bien, quand on dit citoyen de Turquie, on ne veut pas dire turc, on ne veut pas dire turc au sens ethnique du terme. On veut dire citoyen de Turquie en tant que membre d'une société civile qui s'est construite autour de bases démocratiques où la pluriethnicité et la pluralité existent. Et c'est cette nouvelle forme de société que pose le HDP, y compris en mettant en avant les problématiques économiques, écologiques, sociales. Et ça, ce sont les vrais programmes alternatifs que pourrait apporter le HDP pour la Turquie et même peut-être, par extension, au Moyen-Orient. Voilà. Je m'appelle Yegbun Eksen, représentant du Conseil démocratique du Kurdistan à Paris.
Sur France Inter.
Kalachnikov ou mitrailleuse lourde sur l'épaule. En première ligne, des femmes ont participé à la libération de Kobani en Syrie. 5 mois d'intenses combats. Kobani, enclave kurde à la frontière entre la Turquie et la Syrie, théâtre d'une guerre sans merci entre les djihadistes du groupe État islamique et les combattants kurdes. Parmi eux, de nombreuses femmes. Les femmes soldats ont un ascendant psychologique sur les djihadistes de l'État islamique.
Ils ont peur de nous. Les djihadistes considèrent mal les femmes. Et ils croient qu'être tué par une femme signifie qu'ils n'iront pas au paradis.
Grâce aux combattants kurdes et aux frappes de la coalition, aujourd'hui Kobani est libérée, mais en ruine. Et le groupe État islamique est toujours en Irak et en Syrie.
Kim taca seri ve ey sultana paytet bimin Vecim tübü khiru feşiyati ey dilberal evadi Min gokey vek ez dijim Çel salu deman dijim Ferman rabul serimin Seru berbu dünyamın
Bouchardon, dans le 10e arrondissement. L'accord, avec un T à la fin. L'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie.
Ümit Metin, coordinateur de l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie, l'accord. C'est une association qui existe depuis 1980, c'est-à-dire là on va être à notre 36e anniversaire, une association du mouvement issu de l'immigration, des luttes des mouvements issus de l'immigration. Donc notre objectif est avant tout de permettre l'accès aux droits et de lutter contre la discrimination que subissent les populations issues d'immigration et notamment celles originaires de Turquie. Donc avant, une fois qu'il y a eu l'arrêt de la main-d'œuvre entre l'Allemagne et la Turquie, la France a signé, et là nous sommes à la 50e anniversaire, un accord bilatéral avec la Turquie. C'était en 65, avril 65. Donc on voit la première implantation vers l'Est, donc à proximité des cousins et des cousines de la famille qui est proche de l'Allemagne. Par la suite, donc dès les années 65, on a des étudiants qui viennent étudier en France. Il y a une vie étudiante très importante en France. On retrouve un certain nombre d'acteurs d'aujourd'hui qui sont passés en France. Et dans les années 74, donc à Paris notamment, c'est l'arrivée des tailleurs de la confection et l'installation dans le 10e, tout autour du 10e, donc c'est-à-dire à proximité du sentier. Jusqu'à dans les années 80, il y a un flux continu de migrants qui vient, qui travaille, qui trouve du travail. Et en 80, grève de la faim avec une trentaine de personnes, avec 30 jours qui avancent, et tout à côté, des milliers de personnes qui sortent dans les rues, qui manifestent dans les rues du 10e et dans le sentier, et en fin de compte, une régularisation d'un grand nombre de ces personnes-là. Après, on a le coup d'État militaire qui arrive le 12 septembre 1980, avec l'arrivée d'un grand nombre de cadres politiques qui doivent fuir la Turquie, qui sont là pour une durée provisoire. On prépare la lutte politique pour faire la révolution, pour lutter, dénoncer, créer une pression sur le gouvernement turc par rapport aux atteintes aux droits de l'homme de la part de ce régime fasciste qui existait à cette époque-là.
Et Ümit Metin, qu'est-ce qui reste de ce qu'on appelait la petite Turquie ? C'est encore vivant ou
C'est encore vivant. Tous les ans, nous organisons la petite Istanbul, en fait, qui est un moment interculturel entre les origines turques, mais interculturel avec ses 60 autres nationalités du 10e arrondissement, même si en termes d'habitation ce n'est pas le lieu, les gens sont partis, une grande majorité en banlieue, ça reste toujours le lieu politique, social, culturel des origines turques. Et je vous inviterai à venir à notre petite Istanbul qui a cette année réuni les Grecs, nos amis arméniens, les Kurdes, les originaires de Turquie, les Alevis. Il faut savoir que tout, on a vécu Gezi. Les événements d'Istanbul, de la place Taksim, qui est pour moi le mai 68 de la Turquie. Ça a amené les uns et les autres à avoir un autre regard vis-à-vis des autres. Et cette force-là, c'était vraiment quelque chose qui est très important. Les fruits, on les voit au jour d'aujourd'hui, on va les voir encore plus demain. Et c'est vrai que l'HDP, l'union entre les Kurdes et les autres forces progressistes de gauche de la Turquie, a su bien lire, analyser et se faire le porte-voix et le lieu de rassemblement de tous ces acteurs qui ont été agaisés, qui ne se connaissaient pas quand on voit les Kurdes avec le mouvement LGTB. Culturellement, historiquement, c'est des rencontres très importantes. Et il a su lire ça. C'est vrai qu'il y a l'HTP et Demirtas. C'est Selahattin Demirtas qui est leur leader. L'individu joue beaucoup. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'on craint, c'est qu'on a encore une quinzaine de jours. Cette confrontation, cette déstabilisation de la démocratie en Turquie va continuer.
Donc une stratégie de la tension mise en place par le gouvernement pour garder le pouvoir, quoi, par l'AKP, par le président.
Par le président. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il va encore monter la dose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut plus vivre d'horrible de ce qui a été vécu à Ankara samedi dernier. Moi, j'ai des craintes vis-à-vis d'autres choses qui peuvent arriver, parce que l'objectif, c'est qu'il voit très bien dans les sondages que sa stratégie n'a pas marché, il n'aura pas le pouvoir absolu qu'il désirait. Maintenant, c'est peut-être créé pour annuler ces élections-là, mais rester au pouvoir le maximum possible, au détriment de la décision du peuple turc qui aura voté.
Erdogan, 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 kara fırtınalarsa sıyırıyor yukarı. Bulutlar körbeler gözleri, ölüm ve acı beklese de bizleri. Onları yemek için yürümeliyiz ve en değerli varlığımız özgürlük. Cesaret ve inançla savunmalıyız. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Kalplerimizle, kardeşlerimizle, tüm dünyada büyüyor direniş. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Kardeşlerimizle tüm dünyada büyüyor direniş. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için.
Rue du Faubourg Saint-Denis.
Normalement, juste à celui pour entrer là.
Urfadurum, chez Selami, sandwich traditionnel kurde.
Sandwich kurde de viande hachée, agneau, poulet, foie d'agneau, végétarien. C'est dans la pangalette là. Dao, le basto maison là, le gilet fermenté salé.
Alors Selami, vous, vous êtes restaurateur ici?
Oui, je suis restaurateur.
Est-ce qu'on parle toujours de petite Turquie ou de petite Istanbul ici pour ce quartier du 10e arrondissement?
Ah, moi j'ai dit c'est plus ça, c'est petit monde. Il y a quelques commerces de Turcs, de Kurdes, mais la majorité c'est les Kurdes. Toutes les commerces ici c'est les Kurdes.
D'accord, ça serait comme un petit peu le 5e Kurdistan ici.
J'aimerais bien, mais il y a quelques commerces, ça ne change pas grand chose.
Alors là, on est devant votre restaurant, hein, oui, spécialité kurde.
Oui, c'est ce que j'ai fait. Je fais exactement comme là-bas, les tabourets, et je ramène tout de là-bas aussi. On fait comme là-bas, ou quoi. C'est pas comme un sandwich grec ni turc, avec les brochettes, et du pain frais, et des viandes fraîches, et voilà, avec des légumes, on n'a pas de frites, pas de sauce, donc c'est quelque chose de vraiment authentique, traditionnel, sandwich kurde.
Et ça s'appelle Urfadurum.
Oui, Urfadurum. Urfa, c'est la ville que je suis venu. C'est une des plus vieilles villes du monde. C'est dans la Mésopotamie, est de la Turquie. C'est la région du Kurdistan.
Et vous, Selami, vous êtes arrivé quand ici à Paris et ici rue du Faubourg Saint-Denis?
93. Je suis fui.
Vous avez fui la Turquie?
Oui, oui, c'est l'époque que je suis venu. Tous les jours, il y a 15 ans, civils, ils s'étaient assassinés. C'est pour ça que je suis parti à cette époque-là. On avait peur de les soldats nationalistes turcs. Et maintenant, on a peur des nationalistes et des soldats de Dieu.
Donc, deux ennemis, quoi, c'est ça?
Voilà. Donc, on est entre les deux choses.
Et quand vous parlez des soldats de Dieu, c'est Daesh, c'est ça?
C'est Daesh, bien sûr. C'est Daesh qui a plus de majorité, c'est dans la Turquie.
Ouais. C'est une base arrière, c'est ça?
Oui, ça vraiment, malheureusement, oui. Beaucoup de militants, ils sont là-bas. Ils sont... Quand j'étais parti après 17 ans, j'ai peur. Avant, j'étais peur quand j'étais parti, mais je rends peur encore. Parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres dangers que je l'ai vu. C'est le religieux. Parce qu'il y a un village, deux maisons, le troisième, c'est un mosquée. Et donc, qu'est-ce qui va sortir tout ça? Il n'y a pas d'école, mais il y a des mosquées. Alors là, c'est ça que j'avais peur pour l'avenir de mon pays, de la Kurdistan, de la Turquie.
Il y a des élections dans 2 semaines en Turquie. Il y a un nouveau parti, le HDP. C'est encourageant qu'il y ait des nouvelles initiatives comme ça ?
Il n'y a pas d'autre solution parce que s'ils ont peur de Kurdes, ils viennent au Parlement avec leur parti. C'est ça qui ça leur fait peur. Et tout ce qu'ils ont fait, le massacre, ils ont fait le tuer les gens, c'était pour arrêter les Kurdes qui ne viennent pas au Parlement.
Et moi, pour arrêter donc les Kurdes et le HDP.
Exactement, ça, HDP. Et donc, c'est ça le problème, elle vient de là. Le masque à droite, c'est tombé. Et maintenant,
le masque est tombé,
ouais.
Le masque d'Erdogan.
Oui, c'est tombé. Maintenant, l'Europe, ils savaient, l'Amérique, ils savaient, les Kurdes, ils savaient, les Turcs, ils savaient, mais il a encore de pouvoir. Alors, il va, à mon avis, il va aller jusqu'au fond, au bout, là. Il ne lâcherait pas. Si il a la force, il va aller jusqu'au bout.
Donc, c'est l'intimidation et c'est la criminalisation en même temps, quoi.
Voilà, exactement. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont fait plus de meetings. Chaque fois, il y a des civils qui meurent. Et je vais te dire, mais je suis à deux nationalités maintenant. Je suis kurde français. Je suis Pierre aussi. Je m'appelle Pierre ici là. Ouais.
Mais kurde et français ou turc et français?
Je suis kurde français.
Kurde français, voilà. Ouais. C'est comme
parce
ça que vous.
Ouais, oui, parce que je suis naturalisé depuis 2009. Et donc, maintenant, je suis français, mais du kurde, origine du kurde.
Ouais. Mais vous avez toujours la nationalité turque aussi ?
Ils ne m'ont pas encore jeté.
Donc, vous allez voter dans 15 jours. Là, vous votez en ce moment par correspondance.
J'ai voté, j'ai été là il y a 2 jours. Peut-être qu'ils voient changer quelque chose, si je peux le faire.
Bon courage, merci.
3 jours de solidarité avec le peuple kurde sont organisés ces jours-ci et un peu partout à Montpellier, aujourd'hui à 18h, manifestation contre la barbarie d'Erdogan et de Daesh. À Paris, demain dimanche, rendez-vous à 15h pour une marche Bastille République suivie d'un rassemblement. Et pour l'heure, on part avec Give sur un tout autre front.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Comment on dit DRH en italien?
DRH, on dit Direttore Risorse Umane. C'est la même chose, c'est justement traduit.
DRH en allemand, c'est Personal Director.
Directeur du personnel, voilà, comme on disait en France voilà. Avant.
D comme déconnecté, R comme brasser de l'air, H comme la hache de guerre, DRH.
Comment on dit directeur des ressources humaines en anglais?
Human Resources Director. Mais c'est vrai que de plus en plus, on aime bien parler de la gestion des talents, talent management.
Découpe dans le budget, R pour le marketing, H, être humain c'est quoi, DRH.
Car au juste, pour qui roulent ces fameuses ressources humaines? Est-ce qu'elles sont vraiment des conseillers de toute confiance des employés ou au contraire, le bras armé de la direction?
Découpe dans le budget, R, responsable de quoi, H, avant on ne sait pas, DRH.
Avant, on les appelait les chefs du personnel. Aujourd'hui, ce sont des DRH, des directeurs des ressources humaines. C'est une profession qui connaît un immense engouement, mais qui est souvent mal aimée, mal connue, les RH.
Je retiens quoi? C'est que pour faire ce métier, il faut plusieurs conditions. La première, c'est aimer les hommes. La deuxième chose, il faut avoir les convictions. La troisième, c'est que je crois que c'est qu'il faut savoir dire oui et non.
Coup de chaud pour les organisations syndicales, coup de blues pour les spécialistes de la gestion du personnel. Les uns dénoncent la violence des plans licenciement qui succèdent comme autant de charrettes et les autres se sentent pointés du doigt, même pourchassés. Après le choc des images en boucle du DRH d'Air France et sa chemise en charpie et à la veille d'une grande conférence sociale qui commencera lundi prochain avec François Hollande mais sans la CGT, nous sommes allés cette semaine à Suresnes, aux 3e rencontres du dialogue social avec quelques syndicalistes et un parterre de directeurs de ressources humaines qu'il faut maintenant appeler, vous l'avez appris, talent manager, gestionnaire de talent. Comme un bruit qui court, état d'âme chez les DRH.
DRH.
Cette thématique audacieuse qu'on a choisie, le dialogue social carburant de l'économie, fait écho au dernier classement du forum de Davos, pour lequel la France vient d'être classée 116e sur 140 pour la qualité de notre dialogue social. Donc c'est toutes ces questions, évidemment, que nous allons aborder tout au long de la journée. Donc je vais vous rappeler le programme. Donc une première table ronde, quelle pratique internationale du dialogue social? pour optimiser la performance économique et le progrès social. Ensuite, les success stories d'un dialogue social efficace au plus près du terrain. Et puis, dernière table ronde, le dialogue social, booster de performance et d'emploi. Voilà, ce sera passionnant. Et on conclura avec le président de la MDRH, notre partenaire.
Alors j'ai réussi à vous tirer de cette grande série de conférences organisées dans le cadre de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, de la ville de Surel, de l'Organisation internationale du travail. Et vous, vous êtes intervenue en tant qu'experte allemande.
Je suis directrice des affaires européennes et internationales auprès du patronat allemand, le BDA.
C'est l'équivalent de notre MEDEF.
C'est l'équivalent du MEDEF, exactement. Présidente de la Commission sociale de Business Europe.
Et qui est un peu le MEDEF européen, Business voilà. Europe, à Bruxelles.
Exactement, c'est le MEDEF européen à Bruxelles.
Comment s'était perçue en Allemagne cette image du DRH d'Air France, courant, chemise lacérée?
Oui, effectivement, ça nous a choqués tous en Allemagne, parce que c'est une violence que nous ne connaissons pas et que nous ne trouvons pas correcte dans les conflits sociaux, parce qu'il y a des lignes rouges à ne pas croiser. Et aussi voir que le rôle des DRH consiste à faire en sorte que les restructurations soient prises, enfin soient gérées de manière socialement la plus sociale possible.
Que ça fasse moins mal, voilà. Quoi.
Que ça fasse moins mal. Et beaucoup dépend aussi de la volonté des salariés d'accepter d'apprendre de nouveaux métiers. Et là, les salariés allemands sont très très flexibles. Je pense que en France aussi, il faut mener un dialogue sur cette flexibilité et capacité des salariés de s'adapter à d'autres fonctions dans l'entreprise en cas de restructuration.
Moi, quand je serai grande, je serai DRH.
Au fait, c'est quoi un DRH?
Eh bien Julie, c'est quelqu'un qui aime les autres.
Et il les aime tellement qu'il en a fait son métier.
Alors, toute la journée, je vais vous rappeler la règle du jeu de ce colloque. Hein. Toute la salle est en wifi. Et vous allez sur Dialogue social avec le mot de passe sur N1. Je vais vous demander de tester tout de suite, donc à vos smartphones, ce dispositif. Voilà, et vous allez répondre à la question suivante. Que vous inspirent les mots Dialogue social? Et on va avoir un nuage de mots. Que vous inspirent les mots Dialogue social? Réfléchissez 20 secondes, c'est pas simple. Vous voyez, tout le monde s'exprime. Il y a son smartphone.
On attend de voir.
Aïe, conflit. Ce qui arrive en premier, bon, bah écoutez, le
recteur est lancé. Un vrai conflit, en gros.
Et je me demande...
On inspire les DRH, on choisit comme définition du dialogue social, c'est le conflit.
Alors, je vous trouve tous les deux, vous êtes en costard, mais vous n'êtes pas encore des DRH.
Je m'appelle Hicham, je suis en école de commerce, je vais viser un master.
Et moi, je suis Xavier, je suis en troisième année à l'ICD, pareil. Et pour l'instant, je n'ai pas encore la vocation RH, je ne pense pas que je vais l'avoir, mais c'est toujours intéressant de s'ouvrir aux autres dimensions de l'entreprise.
Pourquoi vous ne voulez pas faire ce boulot? Ça a l'air vachement bien.
Selon moi, c'est un métier assez compliqué, il faut être assez psychologique. Et c'est pas quelque chose dans lequel je suis enclin pour l'instant. Je suis plus dans les maths, le business, les stratégies, plutôt que gérer les hommes. Bah, on se retrouve vite torse nu, quoi. Donc ouais, c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Je cours déjà assez.
Les images tournent en boucle sur les télés du monde entier et font la une des journaux. Des dirigeants menacés, traqués par des salariés en colère, obligé d'escalader une barrière pour se mettre à l'abri.
Comment je me présente?
Ouais.
Jean-Paul Charlez, DRH du groupe ETAM, qui emploie 20 000 salariés. La mission d'un DRH, c'est d'accompagner sur le plan humain, individuel et collectif, la stratégie de l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas toujours la fête. Il y a des périodes où ça va bien, il y a des périodes où ça va mal. Le DRH, il est là, quelles que soient les conditions climatiques. Quand on embauche, il faut être certain d'avoir le meilleur candidat possible pour accompagner le développement de l'entreprise. Quand on doit virer, parce que bah, ça existe, hein, il faut...
Ah oui, il y en a même pas mal.
Quand on doit virer, on doit le faire dans les conditions les plus humaines possibles. Quand je dois me séparer de quelqu'un ou d'un certain nombre de personnes, s'il s'agit d'un licenciement collectif, Je suis neutre et j'écoute le salarié et je parle avec lui parce que l'essentiel, c'est que si on doit se séparer, mon Dieu, la notion de contrat à durée indéterminée est globalement récessive, que ce soit sur le plan de la vie personnelle ou de la vie professionnelle, eh bien faisons-le, mais à ce moment-là dans les meilleures conditions possibles pour permettre à chacun de continuer sa vie qui, comme chacun sait, n'est jamais un long fleuve tranquille.
Les choses se sont un peu envenimées. Les manifestants ont pris à partie le DRH. Vous le voyez sur ces images, on a déchiré leurs chemises, leurs vestes. Ils se sont enfuis. Ils sont en train de courir, protégés par des manifestants.
Les séquestrations, des violences et tout ça, ça a toujours eu lieu. Personnellement, ça fait pas loin de 40 ans que je suis DRH. J'en ai toujours connu, même si elles sont strictement marginales. On coince un DRH dans un bureau, on lui apporte à boire et après on lui interdit d'aller aux toilettes. Enfin, bon, mais
ça vous est pas arrivé, rassurez-moi.
Non, j'étais pourtant DRH d'une compagnie aérienne. Bon, le problème, c'est que évidemment, on focalise là-dessus sur la faillite du dialogue social parce que le DRH d'Air France s'était fait arracher sa chemise. Les DRH ne sont pas que des coupeurs de tête, loin de là. Et sans ça, d'ailleurs, je ne pense pas que beaucoup continueraient à exercer ce métier-là avec l'enthousiasme qu'il est nécessaire d'avoir pour le faire.
Ou alors ils auraient des chemises blindées.
Ou alors on aurait des chemises blindées. Absolument.
Que voudrais-tu que je te dise? Ça ne changerait rien de plus. Que je te donne ma chemise. Elle ne tirait pas non plus. Aux ennuis que tu traînes, faut pas te laisser aller.
Je crois qu'on refait un grand cas de l'affaire Air France, mais il y a déjà eu d'autres cas. Il y a déjà eu bien des situations, et parfois pires que celle-là. Ah ben moi-même, j'en ai connu dans ma vie antérieure, entre les séquestrations. Et... Oui, mais oui.
Racontez-moi ça en deux secondes.
Non, parce qu'on a le lieu ne s'y prête pas. Mais pour autant, ce n'est pas du tout acceptable et ce n'est pas excusable. Il faut retrouver des valeurs humaines et humanistes.
Honnêtement, je considère que la manière dont ils sont conduits est juste inqualifiable. Voilà, la chionlie, là, ça pourrait venir si on laissait faire.
Vous n'êtes pas DRH, vous ?
Non, je suis le secrétaire général du syndicat CGT. C'est nous qui, malheureusement, dialogue social, c'est le syndicat. Sur les interventions de mes collègues, ils n'ont pas laissé terminer le deuxième intervenant. Ouais. Justement, on voulait rebondir sur l'actualité, sur Air France. Justement,
parce que c'était à Air France, c'était moins convivial qu'ici, à Suresnes, où DRH et syndicalistes vont déjeuner ensemble dans la salle des fêtes après avoir discuté du dialogue social.
Ah, mais complètement. Nous, le dialogue social à Suresnes, il est apaisé. C'est pas partout pareil, la preuve. Qu'est-ce qui s'est passé sur Air France, hein ? C'est pas de voir le DRH sans sa chemise, c'est les 2900 emplois qui vont être supprimés, voilà.
Oui, mais tout le monde a crié au voyou, au scandale.
C'est Valls.
On a parlé de lynchage.
Moi, je suis désolé, c'est Valls, le voyou, dans cette histoire, parce qu'on va chercher des militants syndicalistes le matin, chez eux, en bande en garnison. On a l'impression que c'est des terroristes. C'est inadmissible, quoi. Et nous, syndicat de Suresnes, oui, on soutient les copains, CGT, les camarades qui luttent pour leur emploi. Si à Suresnes, demain, ils supprimaient 400 emplois d'un seul coup, bah oui. Bah, je pense que 22 arêtes, c'est pas une chemise à avoir, c'est une chemise en Kevlar, ouais, parce que...
En Kevlar.
Sincèrement, je pense qu'on aurait la même réaction, quoi. Alors bon, on n'a pas à venir nous chercher en garde à vue le matin, sous prétexte qu'un DRH a perdu sa chemise, hein, sa petite chemise. Ah oui, c'est tant belle la chemise. Hein, il y a même une autre musique, sans chemise, sans pantalon. Hein, et ça, justement, aujourd'hui, on voulait faire passer ce message-là au DRH.
Mais ils ressortent de ce siège social d'Air France, eh bien, sans chemise.
Ils tentent de s'échapper, la chemise en lambeaux. Sous les huées, la bousculade, poursuivie par des manifestants. C'est au tour du directeur des ressources humaines d'être violemment pris à partie. Le voici en chemise blanche, cravate autour du cou. Il tente de fuir, sous protection policière.
comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Attendez, pas laisser passer, mademoiselle.
Ah, ouais. Je suis l'intervenant italien et j'étais président de l'Association européenne des directeurs des ressources humaines.
Et le lobby des DRH.
Oui, la lobby des DRH. J'ai fait ce métier 40 ans à peu près, c'est toute ma vie professionnelle. Et c'est un métier un peu compliqué, comme vous voyez, dans ces moments surtout, parce que c'est un moment très particulier avec les problèmes en France, etc. etc.
Et alors, est-ce que, comment ça a été perçu en Italie? Est-ce que c'était imaginable en Italie de voir le DRH à l'Italia se faire courser par des salariés, la chemise déchirée?
Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, parce qu'en effet, les syndicats italiens, ils sont très durs, ils sont très conflictuels, etc. Mm. Mais je n'ai jamais été agressé personnellement. Et j'étais obligé à faire face à des problèmes de licenciement, etc., etc.
Ouais. Combien de personnes, on pourrait dire?
Oh, bon. Pas trop, je dois dire. Des mille, quelque chose comme ça. Mais j'ai embauché beaucoup plus. J'ai embauché 10 000, peut-être.
Alors pourquoi maintenant les DRH, c'est vu justement uniquement comme celui qui coupe,
qui coupe les postes? Il y a une pression qui arrive de la situation économique et sociale. Ce n'est pas faute des DRH.
Mais en même temps, vous me dites la situation économique, ouais. La crise de l'emploi, de la consommation. Ouais, ouais. Mais il n'y a jamais eu autant de richesses produites aussi dans nos sociétés.
Oui, mais ça c'est le vrai problème. Le problème, c'est la distribution de la richesse, mais vraiment inégale. C'est-à-dire, les riches deviennent plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Alors, il faut aussi considérer que l'ouvrier, l'employé qui a peur pour le futur, pour ses enfants, pour son boulot, etc., etc., il devient un peu, comment dire, un peu agité. Hein? Il faut considérer aussi ce point. Et je ne vais pas excuser, évidemment, c'est dans France qu'on fait ça. Mais certaines fois, on arrive à licencier quelqu'un pour des raisons strictement financières.
Pour augmenter les dividendes.
Pour augmenter les dividendes, pour augmenter la valeur de l'action. Alors ça, c'est pas juste.
Ouais, mais si on vous demande de le faire, c'est votre boulot, vous, DRH.
Mais c'est ça le problème. Parce que dans les grandes entreprises, l'homme, c'est pas un homme, c'est un numéro. Parce qu'il y a quelqu'un qui décide à New York sur le destin de quelqu'un qui habite en France ou en Italie. Maintenant, l'économie, c'est au service de la finance. Ça, c'est le problème. Et les DRH ne peuvent pas être en faveur de ça.
Mais quand vous dites ça, M. Abramo, on ne vous traite pas de gauchiste, on ne vous dit pas « mais va donc au nouveau parti anticapitaliste
». Non, je ne suis pas anticapitaliste. Je suis en faveur du capitalisme réel. Pas du capitalisme financier, c'est ça. Ok.
Alors moi je mets en garde tous ceux qui montrent du doigt la violence des salariés de cette façon en niant la violence qui leur est faite à eux, les salariés.
Voilà, après l'effort, le réconfort, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines se retrouve dans la salle des fêtes de la mairie. Avec les partenaires AG2R La Mondiale, AXA, Elias, Mutex, Verling, pour les troisièmes rencontres du dialogue social et un sous-titre, le dialogue social carburant de l'économie. Et ce qui est surprenant de noter, immédiatement il n'y a qu'une seule image qui vient, c'est l'image du directeur des ressources humaines d'Air France, pourchassé par les salariés, grimpant torse nu la rambarde.
Donc Marie-Isabelle Frissinet, DRH de la société Mutex, société d'assurance. Alors, le métier du DRH, c'est déjà bien comprendre les orientations stratégiques, les enjeux de l'entreprise, et du coup, arriver à cerner ce qu'il va falloir transformer au niveau du corps social.
C'est-à-dire au niveau des salariés.
Au niveau des salariés, donc à la fois ce qui peut être porteur, mais ce qui peut être des freins, des difficultés.
Et je ne vous cache pas que ces derniers temps, c'est plutôt cet aspect-là de votre emploi qui a été mis en avant.
Justement, le travail du DRH, c'est essayer de faire passer les messages et faire en sorte de, voilà, que les changements se passent, se réalisent au bon rythme. Pas trop lentement, plus vite quand l'entreprise le peut, mais voilà, trouver le rythme, et ça c'est vraiment le boulot du DRH, c'est ajuster, je dirais, la vitesse.
Ah oui, c'est ça, c'est pas tellement sur non, il faut pas supprimer les postes, mais c'est de faire passer la pilule.
Voilà, c'est pas faire, mais dire non, là on va trop vite, ou au contraire, là on peut y aller, là on peut passer. C'est vrai que les salariés là-dessus sont rétifs, il y a de la peur du changement, et donc tout notre job c'est, de toute façon cette peur elle est là, hein. C'est participer au fait de faire le deuil, accepter, se repositionner, réapprendre, se transformer pour avancer. Voilà, c'est ça le job.
Mademoiselle, monsieur, on n'a que ce qu'on mérite. Chacun ce qu'il mérite, c'est juste, c'est justice. Je vous remercie. Quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on trouve. On prouve. Mademoiselle, monsieur, vous prenez ou vous ne prenez pas? De toute façon, c'est ça ou rien. Mademoiselle, monsieur, quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on trouve. On prouve. Je vous remercie. C'est la loi du marché. Je suis honoré.
Non mais je prends 5 minutes, parce que j'ai envie que vous me racontiez, vous, Jean-Luc Vergne, vous êtes un baroudeur du DRH. Vous avez même fait le bouquin Itinéraire d'un DRH gâté.
D'accord. Et que vous voulez savoir quoi?
Qu'est-ce que vous a appris votre métier de DRH pour ne pas se retrouver dans la situation
vous me rappelez...
du DRH d'Air France?
Vous me rappelez mon parcours. J'aurais jamais pensé, quand j'ai démarré la vie active, avoir ce parcours. Être DRH de 4 grands groupes, groupe Sanofi, groupe Aquitaine,
Pétrochimie,
PSA, Peugeot Citroën,
automobile,
et puis BPCE, la banque.
Finance.
Je retiens quoi? Ce qu'il faut savoir dire oui et non. Oui à son patron, mais oui aussi au syndicat quand ils ont raison. Et non au syndicat, mais non aussi à son patron quand on pense qu'il a tort. Donc il faut avoir ces qualités de cœur et de courage. C'est ça, si vous voulez, qui fait le métier de DRH.
Vous racontiez, vous avez été prise à partie par des salariés. Oh, vous avez été séquestré?
Je l'ai été, j'ai eu des débuts de séquestration, j'ai été quelque peu secoué, malmené. Mais vous savez, quand, avant de partir, de quitter PSA, j'ai fait deux plans, 2 x 6 500 personnes en 2 ans.
Bon, 13 000 personnes en 2 ans.
J'avais quand même du monde devant la porte, quoi. Bon, mais je l'ai fait, pas de gaieté de cœur, mais je l'ai fait en mettant tous les moyens pour pas qu'il y ait de sang, pour pas qu'il y ait de larmes. Bon, mais c'est ça qu'un DRH doit faire. C'est ça comme ça que j'ai toujours fait.
Et pourtant, il y a des DRH pour qui les hommes sont une variable d'ajustement.
Mais non, pour moi, ce n'est pas une variable d'ajustement. Il ne faut pas les considérer comme ça. J'ai répondu.
Une dernière relance, justement, pour ne pas être langue de bois, sur l'image d'Air France. Est-ce que ça porte comme préjudice au DRH, comme étant le salaud de service qui se fait courser par les syndicalistes échauffés?
Non, je ne crois pas que ça porte préjudice. Cette médiatisation très violente, dans les images. Je crois que c'est pas une bonne chose pour l'image d'Air France, mais c'est aussi pas une bonne chose pour la France en général. Mais par contre, je suis sûr, et je l'ai constaté autour de moi, que Xavier Brossetta, eh bien, il est apparu vraiment à la fois sympathique et puis courageux. 4 ou 5 heures après, de venir devant les télés, devant les médias.
Le directeur des ressources humaines d'Air France prend la parole, la gorge serrée.
Permettez-moi tout d'abord, à titre personnel, je suis évidemment choqué et déçu.
Son émotion est encore visible.
Mais je ne voudrais surtout pas l'opprobre soit jeté.
Et dire qu'il ne fallait pas jeter l'opprobre
voilà,
à les salariés.
Il y a eu un plan com tout de suite qui a été fait de communication de crise, voilà. Non, mais de réaction.
Et dans son image à lui en tant que DRH, ouais. Elle n'est pas du tout écornée. Par contre, je crois que l'image d'Air France, elle est quand même assez écornée.
Ce que vous avez vu lundi, ce n'est pas le vrai visage d'Air France. Air France, c'est ça. Air France, c'est nous. Et Air France, c'est pour vous.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité.
C'est que pour faire ce métier, il faut plusieurs conditions. La première, c'est aimer les hommes. Pour moi, ce n'est pas une variable d'ajustement. Il ne faut pas les considérer comme ça.
Bien que nos bénéfices aient cette année augmenté, nous ne pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires. Aussi devons-nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins sévère. Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissant. de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession.
Vous savez, j'ai fait deux plans, deux fois 6500 personnes en deux ans, mais je l'ai fait en mettant tous les moyens. Pour pas qu'il y ait de sang, pour pas qu'il y ait de larmes.
Vous quitterez votre logement dans les trois mois, remettrez à l'accueil votre badge de parking, viderez votre casier, restituerez votre carte de cantine. Nous ne sommes pas ingrats et nous vous verserons des indemnités substantielles qui vous permettront de profiter de la vie et continuer un moment à consommer nos produits bien sagement. Et quand vos fonds seront épuisés, que la grogne sociale se fera entendre, vous n'aurez qu'à demander au gouvernement d'alors quelles mesures il comptera prendre. Libre à vous d'accepter notre plan de reclassement. Si toutefois, vous adoptiez la moindre attitude subversive, vous ne trouveriez à votre état plus aucune alternative. Sachez que notre groupe possède de nombreux médias et qu'il existe des cibles. Veuillez accepter, monsieur, après ces années écoulées, de bien vouloir, par notre groupe, vous faire profondément remercier.
C'est maintenant prouvé, scientifiquement prouvé, les relations sociales qui ne transforment pas un travail en champ de bataille sont essentielles pour la santé des travailleurs, mais aussi profitables pour les actionnaires. De là à rêver que les grands groupes cessent de penser en cost-killer, en dégommeur de superflu, pour faire une place aux relations humaines, c'est peut-être un peu aller vite en besogne, mais vous l'avez entendu, quand on écoute un lobbyiste des DRH européens critiquer les ravages de l'économie financiarisée, on peut peut-être commencer un peu à espérer. Mais c'est peut-être parce qu'il a lu le dernier livre de Joseph Stiglitz, La Grande Fracture, les sociétés inégalitaires, ce que nous pouvons faire pour les changer, à retrouver aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Et pour aller plus loin sur le sujet du management moderne, un autre livre, La comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale, de Daniel Linhart aux éditions RS. C'était comme un bruit qui court, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, faites courir le bruit sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast. Juste après les informations, vous retrouvez Jean-François Zigel pour la preuve par Z. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.